France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
...1947, la Havane et le chant des Noirs américains. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Carrefour des Amériques. Nous sommes entre New York et la Havane alors que s'achève l'année 1947, quand la capitale cubaine connaît à nouveau une effervescence culturelle étonnante. Et les journaux s'en font l'écho avec fierté. Un seul exemple. Alors qu'approchent les années 50, la Havane est l'une des villes au monde à avoir le plus de cinéma par rapport au nombre d'habitants, plus qu'à Paris, dit-on fièrement à Cuba. Et puis ces grands cabarets, où les artistes cubains font merveille, sont réputés dans le monde entier, plus par leurs spectacles, bien sûr, que par leurs salles de jeu. En cette année 1947, après le somptueux cabaret sous les étoiles, le fameux Tropicana, deux nouveaux cabarets ouvrent. D'abord le Sans Souci, qui se trouve à 11 km du centre de la ville et qui est complètement réaménagé en avril 1947. Sa villa de style espagnol, son parc, avec une grande scène à ciel ouvert, pouvait accueillir, disait-on, près de 1000 personnes. Il rivalisait ainsi avec le Tropicana. En fin d'année, un autre cabaret tout aussi mythique, le Montmartre, est inauguré le 29 décembre dans le quartier du Vedado de la Havane. En 1948, l'invité vedette, c'est Cab Calloway, le chanteur de jazz américain, qui venait pour la première fois à Cuba avec son orchestre. Un orchestre dont Dizzy Gillespie et le trompettiste cubain Mario Bausa avaient fait partie à New York en 1939. Cab Calloway, qu'ils avaient sans doute converti à la musique cubaine quand il enregistre son populaire Conchita sur un rythme de rumba et qu'il a dû jouer au cabaret Montmartre à la Havane. Conchita ne pense qu'à l'amour et elle peut tout danser, de la rumba et du tango au boogie et au woogie.
But I love her, she won't share. She can hug you, she won't kiss you. If you try to, she will smack you. Oh, but Conchitos, she cares nothing about the love. Thank you.
À Cuba, les artistes afro-américains sont de plus en plus appréciés par le public. En 1947, la société Pro Arte et l'orchestre philharmonique ont décidé de rendre hommage à deux grandes cantatrices noires des États-Unis, deux grandes militantes qui, à force de courage, avaient conquis les salles de concert et même les théâtres d'opéra. La première, c'est Marian Anderson. Elle venait d'avoir 50 ans quand elle vient chanter à Cuba en 1947. Elle ne faisait pas encore partie de la troupe du Metropolitan Opera. C'est seulement 8 ans plus tard qu'elle y chante le rôle d'Ulrika dans le bal masqué de Verdi, devenant ainsi la première cantatrice afro-américaine à fouler les planches du Grand Opéra de New York. Et pourtant, Dieu sait si la beauté de sa voix et ses interprétations étaient déjà légendaires, ne serait-ce que par son récital au Mémorial Lincoln le 9 avril 1939. Ce dimanche de Pâques, grâce au soutien d'Eléonore et de Franklin Roosevelt, elle avait donné un récital en plein air sur les marches du Mémorial, devant une foule de 75 000 personnes. Avant de partir chanter pour les amies américaines engagées dans le conflit outre-mer. Au printemps 1947, elle est en tournée dans les Antilles, et le 25 mai, elle donne un récital à La Havane. Il fait si chaud ce printemps-là qu'on a dû installer des ventilateurs électriques sur la scène du théâtre Auditorium. Elle est accompagnée par Franz Rupp, son pianiste depuis 9 ans. Au programme, Handel, Scarlatti, l'air de La Favorite de Donizetti, des chants américains et des Negro Spirituals, sans parler d'un bis en espagnol, La Jota de Manuel de Falla, avec une diction remarquable qui impressionne les critiques. Mais c'est surtout le groupe de leaders de Schubert, dont La Jeune Fille et la Mort, qui a bouleversé le public. La Jeune Fille et la Mort que Marian Anderson et Franz Rupp ont enregistré en novembre de la même année, 1947, à New York. Pour les fêtes de fin d'année, le chef d'orchestre Juan José Castro a engagé de son côté la soprano noire Ella Bell Davis à La Havane. Elle avait été la première artiste lyrique de couleur à être engagée en saison par un grand théâtre d'opéra, et c'était à Mexico où elle avait chanté notamment Aïda. Le Metropolitan Opera de New York l'engagera peu après Marian Anderson. À La Havane, elle chante Mozart, Weber, Brahms, Purcell et même Ernest Chausson avant d'achever le concert par des Negro Spirituals comme Plenty Good Room. Il y a toute la place qu'on veut au royaume de mon père.
Plenty good room, plenty good room, plenty good room in my father's kingdom. Plenty good room, plenty good room, choose your seat and sit down. Plenty good room, plenty good room, good room in my father's kingdom. Plenty good room, plenty good room. Choose your seat and sit down. I would not be a sinner. I'll tell you the reason why. 'Cause if my Lord should call on me, I wouldn't be ready to die. Oh, plenty good room, plenty good room, good room in my father's kingdom. Plenty good room, plenty good room, choose your seat and sit down. I would not be a backslider, I'll tell you the reason why. 'Cause if my Lord should call on me, I wouldn't be ready to die. Oh, plenty good room, plenty good room, good room in my father's kingdom. Plenty good room, plenty good room, choose your seat and sit down.
En 1947, le pianiste et chanteur noir cubain Ignacio Villa, que tout le monde appelle Bola de Nieve, boule de neige, est en Argentine, avec le compositeur Ernesto Lecuona. Il part en Espagne, engagé par la chanteuse andalouse Conchita Piquer pour jouer et chanter dans sa nouvelle revue, notamment au théâtre de la Zarzuela de Madrid, puis en tournée à travers le pays. Or, en 1948, Ernesto Lecuona débarque aussi en Espagne. Il engage à son tour Bola de Nieve dans son spectacle, Bola de Nieve qui a mis à son répertoire plusieurs chansons espagnoles, dont le célèbre Chevalier d'Olmedo, El Caballero de Olmedo, un ancien romance dont s'était inspiré Lope de Vega en 1620 pour sa pièce du même nom. Le chevalier courtisait une belle, sans savoir qu'elle était promise à un autre homme. On a tué le chevalier d'Olmedo pendant la nuit. On l'avait pourtant averti du danger. Cela s'est passé à Medina, cela s'est passé à Olmedo, près de Valladolid.
La llamaban Rosa Luna, era de rosa y marfil, gitana de las Castillas, nacida en Valladolid. En una feria sus ojos negros encandilaron a un caballero que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Retírese el fachendoso, no corteje a Rosa Luna, le siguen sus cuatro primos desde las doce a la una. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana. Y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le seguían al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. A la orilla del Pisuerga, un caballero gentil, atravesado de navajas, de cara a Valladolid. Son cuatro golpes, golpes certeros, y escrito en sangre va este letrero: que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Que no culpen la justicia por esto a gente ninguna. Le matan cuatro gitanos por querer a Rosa Luna. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo.
En 1948, Ernesto Lecuona, Bola de Nieve et toute la troupe quittent l'Espagne pour Cuba et les États-Unis. Ils sont engagés à Philadelphie, où ils sont sur scène avec des chanteurs aussi renommés que Lena Horne et Paul Robeson, puis à New York, où ils jouent aux côtés de l'Argentine Libertad Lamarque. Aux États-Unis, Paul Robeson devient l'un des plus fidèles admirateurs de Bola de Nieve. Il lui apporte son soutien. À New York, Lecuona organise un concert de musique cubaine au Carnegie Hall. Le 21 novembre 1948, Bola de Nieve y remporte un triomphe sous le nom de Snowball. La presse le range dans la catégorie des 10 heures exceptionnels, comme Nat King Cole ou Maurice Chevalier. Ce que Bola de Nieve confirmait lui-même quand il disait « Vous savez, je ne suis pas vraiment un chanteur, mais quelqu'un qui dit des chansons. » J'aurais aimé être chanteur d'opéra, mais j'ai une voix de camelot, de vendeur de pêche ou de cerises. Je me suis donc résigné à vendre des cerises sur scène, assis à mon piano. Aux États-Unis, il chante aussi en anglais, comme cette chanson « Driving Berlin » qui connaissait un grand succès depuis 1946. « Be careful, it's my heart. »« Ce n'est pas ma montre que tu tiens dans les mains, c'est mon cœur. Alors fais attention, ne le brise pas. »«
Be careful. » It's my heart. It's not my watch you're holding. It's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lend you that you never return. Remember, it's my heart. The heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lent you that you never return. Remember, it's my heart. The heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, remember, it's my heart.
Après New York, Bola de Nieve retourne à La Havane, où il retrouve les théâtres et les cabarets où il avait joué. Il avait fait les beaux soirs du Tropicana lors de l'ouverture, puis il devient la vedette du cabaret Sans Souci et du cabaret Montmartre. En 1948, le sens aussi a engagé aussi un des trios latino-américains les plus connus. Deux chanteurs mexicains et un portoricain qui s'étaient rencontrés à New York et qui s'étaient appelés Los Panchos. Ils commencent à tourner internationalement et décident de s'établir à Mexico. On est en 1949, les contrats pleuvent, la plus célèbre des radios mexicaines leur ouvre grand les bras. On ne compte plus aujourd'hui les disques qu'ils ont vendus à travers le monde. À Cuba, ils ont chanté des musiques mexicaines bien sûr, mais aussi quelques succès cubains et portoricains comme « Locura de Amor », « La folie d'amour » du crooner de San Juan de Puerto Rico Bobby Capó, qui était alors la vedette de la radio Habana Cuba. Voici donc toute l'Amérique latine réunie de nouveau à Cuba.
Mi querer es verdadero. Di qué de hacer para que creas que con tu amor yo fui sincero. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo, ¿quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontrarás? Sueña que te sueña, piensa que te piensa, sufre que te sufre, llora que te llora tan solo por ti.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
L'Amérique latine s'était donc donné rendez-vous à Cuba avec Los Panchos, mais aussi avec les concerts de l'Orchestre philharmonique de la Havane, que dirige toujours l'Argentin Juan José Castro. Juan José Castro a été très préoccupé par l'arrivée au pouvoir à Buenos Aires le 24 février 1946 du général Perón. Bientôt, son régime autoritaire donne un sérieux coup d'arrêt à la liberté d'expression. Les artistes et les intellectuels en font les frais, à commencer par l'écrivain Jorge Luis Borges. Le compositeur Alberto Ginastera aussi. Il est destitué de son poste de professeur à l'Académie militaire pour avoir signé une pétition en faveur des libertés civiles en Argentine. Ginastera quitte alors le pays pour les États-Unis grâce à une bourse Guggenheim. À New York, il compose une œuvre pour chœur a cappella d'une grande intensité, Les Lamentations du prophète Jérémie, 5 poèmes qui déplorent la destruction de Jérusalem et qui chantent aussi l'exil. C'est Juan José Castro qui crée l'œuvre le 21 juillet 1947 à Buenos Aires. À son retour à la Havane, il demande à son chef du chœur du philharmonique, Paul Xonka, de monter l'ouvrage. Xonka fait alors appel en renfort aux nombreuses chorales de la Havane qui se joignent au chœur du philharmonique. et les 14 et 15 décembre, après l'entracte et avant la 6e symphonie de Tchaïkovski, ce sont 80 personnes qui entrent en scène pour interpréter cette œuvre déchirante où Rinastera exprime aussi son propre exil. Un extrait des Lamentations du prophète Jérémie, du compositeur argentin Alberto Rinastera, interprété par le chœur universitaire de La Plata, sous la direction de Roberto Ruiz. En fait, en cette fin des années 40, Cuba est certainement le pays le plus développé d'Amérique latine. le président en fonction parvient même à organiser une première répartition de terres aux paysans avec matériel agricole et semences. Plus de 900 paysans en bénéficient. Cuba compte alors plus de 5 millions d'habitants et le niveau de vie a progressé sérieusement. Le compositeur Edgardo Martín, plutôt proche des communistes, écrit dans le bulletin gouvernemental combien il est impressionné par le nombre d'événements culturels qui se succèdent à La Havane, une ville, précise-t-il, de 800 000 habitants seulement. À Cuba, les femmes aussi ne cessent de remporter des victoires dans leur lutte pour l'égalité des droits. C'est le cas de la pianiste et compositrice noire Isolina Carrillo, une femme qui a réussi à force de courage, de professionnalisme, à se faire une place importante sur la scène musicale cubaine. À l'âge de 10 ans, elle accompagnait les films muets. En 1937, elle entre à la radio Habana, Cuba. Elle devient un des chefs de chant les plus demandés par les grands artistes cubains comme Olga Guillot. En 1948, sa chanson Dos Gardenias fait un succès mondial. Miguel de Gonzalo, chanteur de grande culture qui avait même étudié aux États-Unis avec Aaron Copland, est un de ses meilleurs interprètes. Il a été un des premiers chanteurs de feeling, et cela s'entend quand il chante ces deux gardenias avec ce style pudique, intime, sans aucun effet. Ce qu'aimait beaucoup la compositrice Isolina Carrillo.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer, porque existe otro querer.
Les célèbres deux gardenias d'Isolina Carrillo par Miguel de Gonzalo, c'est finalement le concept même d'Amérique latine qui est au cœur de la culture cubaine en cette année 1948. L'écrivain Alejo Carpentier a quitté Cuba une fois de plus pour s'installer à Caracas, au Venezuela. Il va y rester 15 ans. Il termine là-bas son roman, Le royaume de ce monde, inspiré par son séjour à Haïti. Il y exprime ce qu'il nomme le réel merveilleux. Rien à voir avec le réalisme magique de nombreux romanciers latino-américains, dit-il, qui feraient mieux de chercher le merveilleux dans la réalité, puisque c'est là qu'il est omniprésent dans la culture latino-américaine. En 1948, son ami, le compositeur José Ardévol, est invité par lui en février au Venezuela pour la cérémonie d'investiture du président Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, qui est pourtant un redoutable dictateur sans pitié et à qui, curieusement, Carpentier offre ses services. Loin de cette agitation à La Havane, le compositeur Argelias León, toujours aussi indépendant, écrit un concertino pour flûte, piano et cordes où il exprime l'Amérique latine et Cuba en revenant de nouveau aux sources hispaniques de leur culture. Le troisième mouvement du concerto pour flûte de Argelias León, Yalin Martinez à la flûte, au piano Victor Díaz Hurtado et c'est José Antonio Méndez Ferrer qui dirigeait la Camerata de l'Institut supérieur d'art de La Havane. Après l'Amérique, c'est la France qui entre en scène et de manière assez inattendue, avec un chœur a cappella, celui des religieuses dominicaines françaises de La Havane. Les pères dominicains français étaient installés depuis longtemps à Cuba. Ils avaient fondé le collège San Bartolomé de las Casas à Cienfuegos. Plusieurs religieuses dominicaines françaises étaient arrivées par la suite et avaient fondé à leur tour plusieurs collèges à travers l'île. En 1948, la compositrice Gisela Hernández dirige toujours plusieurs chorales à La Havane, et notamment le chœur des dominicaines françaises. C'est le Lycéum qui les accueille cette année-là pour un concert. Gisela Hernández venait de composer un villancico de Noël, Las Palmas Reales, les palmiers royaux, enregistré ici dans les années 50 par le chœur des madrigalistes de la Havane, dirigé par Manuel Ochoa. Des anges des cieux tropicaux viennent voir le petit enfant. Ils lui offrent des palmes royales. L'un des anges est un petit noir qui chante pour lui un son en s'accompagnant de ses maracas. Le théâtre français est aussi à l'honneur à La Havane en 1948. Le 10 janvier, le théâtre de l'Académie d'art dramatique présente deux pièces de Jean-Paul Sartre, Huit clos, A puertas cerradas, et La putain respectueuse, La ramera respetuosa. Quant à la musique, la fin de l'année 1947 a été illuminée par les petits chanteurs à la croix de bois de l'abbé Maillard, qui avait chanté Jeannequin, Roland de Lassus et les chants populaires français de Poulenque. Puis en mars, Juan José Castro et la société Pro Arte ont invité le violoniste français Jacques Thibault. 5 ans auparavant, Thibault avait fondé un concours prestigieux avec Marguerite Long. Il enseignait à l'École normale de musique à Paris. Il s'était rendu célèbre par son interprétation de la musique française et des œuvres de Mozart. Il a 68 ans quand il arrive à La Havane. Il y interprète Beethoven, Debussy, Leclerc et Mozart, puis avec l'Orchestre Philharmonique, le concerto pour violon numéro 5 de Mozart qu'il aimait beaucoup. Jacques Thibault est mort 5 ans plus tard dans un accident d'avion alors qu'il se rendait au Japon. Thank you. Jacques Thibault violon, Charles Munch à la tête de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dans cet extrait du 5e concerto pour violon de Mozart. En 1948, Ernesto Lecuona est en tournée avec Bola de Nieve et plusieurs artistes lyriques de Key West à Tampa puis à New York. Parmi les chanteurs, une jeune soprano cubaine, America Crespo, qui avait fait un début remarqué au Carnegie Hall aux côtés de Bola de Nieve. On l'écoute ici en duo avec Esther Borja et l'orchestre de Gonzalo Roig. Dans la tradition de la chanson cubaine, il était de coutume, quand une mélodie avait eu beaucoup de succès, de lui composer une réponse. À la célèbre chanson « Quiere me mucho »« Aime-moi beaucoup », son auteur Gonzalo Roig avait répondu par un titre plutôt désabusé « Je t'ai aimé ».
Mi corazón
Depuis 1946, Alicia Alonso est la première ballerine de l'American Ballet Theatre à New York, où elle fait sensation dans Gisèle. Un an plus tard, elle crée Thèmes et variations de Balanchine et le ballet dramatique d'Agnès de Mille, Fall River Legend, où elle montre, sur la scène du Metropolitan Opera le 22 avril, ses talents de tragédienne de la danse. Cette même année, elle décide de rentrer à Cuba avec son époux Fernando Alonso pour réorganiser le ballet cubain, surtout après la mort de son directeur Yavorsky un an plus tôt. Ils sont accueillis tous les deux à bras ouverts par la société Proarte qui leur offre les salles de répétition et toutes les installations du théâtre Auditorium. La première a lieu le 20 octobre 1948. C'est ce noyau qui devient le ballet Alicia Alonso avant de s'appeler plus tard le Ballet National de Cuba. À New York, Alicia Alonso dansait avec une force impressionnante dans la légende de River Fall mise en musique par Morton Gould, le rôle d'une jeune fille contrainte au meurtre dans une société de Nouvelle-Angleterre très religieuse et très rigoriste. C'est sur ce triomphe new-yorkais d'Alicia Alonso qu'on va se quitter aujourd'hui. C'est sur ce ballet de Morton Gould dansé par Alicia Alonso qu'on se quitte aujourd'hui et qu'on se donne rendez-vous dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Benjamin Vignal, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.